Est-ce que vous pensez que l'Esprit de Dieu souffle encore aujourd'hui? Parce que quand j'entends la première partie de Gilles, quand j'entends les prières qui ont été données, je crois vraiment que l'Esprit souffle. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà déjà un peu plus de 8 mois que je suis arrivé dans cette église à Gobert. Je ne vais pas rester 2-3 ans comme c'était le cas pour Paul, mais je profite pleinement de cette année de stage ici parmi vous. Et pendant ce stage, j'ai la joie, jour après jour, de découvrir la communauté que nous formons, les liens que nous avons et que nous tissons, ainsi que toutes les choses que nous partageons. Et quelle joie de vivre cette communion qu'est l'Église avec vous. Mais si ce matin, je me tournais vers vous et que je vous demandais qu'est-ce que l'Église ? J'imagine que je vais avoir plein de réponses différentes. Allez, je vais essayer. Qu'est-ce que l'Église pour vous ? En un mot. La maison du Christ. Nous. La famille de Dieu. Des pierres vivantes, effectivement. Le temple du Saint-Esprit. Je pense que, voilà, on voit déjà qu'il y a plein de réponses différentes. On aurait pu rajouter peut-être un bâtiment, une communauté, une famille, et puis toutes les choses qui ont déjà été dites. La liste peut être très longue. Et si je vous demande, ou si je demande autour de moi, quelle est la vision qu'on peut avoir de l'Église de manière générale ? Est-elle positive ou négative? Je pense que suivant nos vécus, suivant nos expériences, suivant ce qu'on peut entendre, les réponses pourront être diverses. Certains auront une bonne vision, d'autres une mauvaise. Mais ce qui est certain, en posant cette question, c'est que l'Église n'est pas parfaite. Un sondage en 2019, par exemple, disait à propos de l'Église catholique que 56% des Français en avaient une mauvaise image. Et je pense que ce sondage pourrait même s'appliquer à toutes les églises chrétiennes aujourd'hui, malheureusement. Mais alors revenons à notre question pour aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église et quel est son but ? L'apôtre Pierre, dans sa première lettre écrite aux chrétiens d'Asie mineure, on y revient à nouveau aussi, semble venir nous questionner sur ce sujet justement. C'est la lettre qu'on a pu suivre au long de mes prédications ici, et je vous propose de continuer la lecture. On se rappelle qu'au début de sa lettre, Pierre, pour encourager les chrétiens d'Asie mineure qui vivaient des épreuves, leur a rappelé combien la foi valait le coup d'être vécue. Car Jésus est venu tout changer dans nos vies en nous donnant une espérance vivante. Il s'est ensuite appuyé sur cette espérance vivante pour développer le projet de vie des chrétiens que Dieu offre. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et dans notre texte de ce matin, Pierre nous propose un dernier élément du projet de Dieu, un élément plus communautaire. Et je vous propose de lire 1 Pierre 2, les versets 4 à 10. Que ça va fonctionner.
Ah ben c'est déjà affiché, c'est bien.
Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici que je place en Sion une pierre d'angle. Je l'ai choisie, elle est précieuse. Et celui qui met sa foi en elle ne sera jamais déçu. » Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants. Mais pour les incroyants, comme le dit l'Écriture. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Et ailleurs, il est dit, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces personnes trébuchent parce qu'elles refusent d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qui l'a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Maintenant, vous êtes peuple de Dieu. Autrefois, vous étiez privé de bonté. Mais maintenant, la bonté de Dieu vous a été accordée. Jusqu'ici, notre lecture. Qu'est-ce que l'Église ? Voilà un texte qui nous semble bien dense et pas si évident à comprendre pour essayer de répondre à cette question. Il faut déjà noter, avant de commencer, que, comme vous avez pu le voir au cours de la lecture, le mot « église » n'est pas présent dans le passage. Vous allez sûrement penser à ce moment-là, mais Joachim, pourquoi tu nous parles depuis tout à l'heure d'église alors que Pierre n'utilise même pas ce mot-là ? Et je vous répondrai, en effet, même si le mot « église » n'est pas présent, beaucoup d'éléments présents dans le texte peuvent se rapporter à celle-ci. Déjà juste les interlocuteurs de Pierre. Pierre s'adresse à ses lecteurs, à la deuxième personne du pluriel. Il s'adresse à un groupe de chrétiens, les chrétiens d'Asie mineure. Et même dans les mots qu'il va utiliser, nous retrouvons des éléments qui peuvent nous rappeler l'Église. Des éléments tels que communauté, temple, les croyants. Et tout cela me porte à croire et à penser que Pierre nous donne des indications sur l'Église, sur la dimension communautaire du projet de Dieu. Oui, le projet de Dieu n'est pas uniquement individuel, il est communautaire. Et il faut se dire que ce n'est pas une nouveauté. Déjà tout au long de l'Ancien Testament, on voit que Dieu s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, pour que ce dernier devienne une bénédiction pour les autres nations. Malheureusement, avec le peuple d'Israël, tout ne s'est pas passé comme prévu. On peut lire que le peuple se détourne de Dieu, se tourne vers les idoles, vers les dieux des peuples étrangers. Et par conséquent, Dieu va l'envoyer en exil. Mais le projet de Dieu prévu depuis toute éternité, ne va pas s'arrêter à ses contretemps avec le peuple d'Israël. Le projet de Dieu continue. Et c'est ce que Pierre veut nous montrer dans ce passage qui est très marqué par l'Ancien Testament. On y trouve trois citations, deux du prophète Ésaïe et une d'un psaume. Pierre fait référence à Sion, au temple, aux prêtres, aux sacrifices et même au peuple élu. Tous ces éléments qu'on retrouve dans ce texte nous renvoient à l'Ancien Testament et au peuple d'Israël, à son histoire. En utilisant ces thèmes, en faisant ces citations, Pierre veut nous montrer quelque chose. Il veut nous montrer déjà que l'Église n'est pas une création qui vient de nulle part. Elle est la continuité, d'une certaine manière du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, le verset 9 que nous avons lu reprend une promesse faite au peuple d'Israël pendant l'Exode, pendant que le peuple était dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale des prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qui l'a fait sien. Oui, l'Église se place dans la continuité du peuple d'Israël. Mais dans cette continuité, il y a une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est que ce peuple nouveau se réunit autour du Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même qui est venu sur cette terre pour nous sauver par le don de la croix, ce don dont nous nous sommes rappelés il y a quelques semaines à Pâques. Quelle grâce et quelle bonne nouvelle autour de laquelle se rassemble l'Église. Car oui, Jésus est le fondement de l'Église. Et par lui, et c'est mon premier point, l'Église devient même un élément de l'Évangile. L'Église fait partie de l'Évangile. Elle n'est pas, comme on pourrait sûrement l'imaginer, un ajout, une institution que les apôtres ou même d'autres hommes aurait voulu créer de toutes pièces en se disant « Allez, on se réunit, on s'inspire de ce qui se passe dans les synagogues et on va créer une nouvelle institution. » Non, aussi imparfaite que l'Église puisse être, elle est un élément du plan de salut de Dieu pour ce monde. Elle fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je ne sais pas si on arrive à s'en rendre compte parce qu'on voit souvent les dérives de l'Église, les choses qui ne vont pas. Mais Pierre veut nous rappeler que l'Église, assemblée autour de Christ, fait partie de l'Évangile. L'Église fait partie du plan de construction de notre architecte divin, pour reprendre l'image un peu utilisée par Pierre. Ce plan pensé de toute éternité. Dieu a imaginé, a pensé, son Église autour de Jésus-Christ, la pierre principale, la pierre d'angle de son édifice. Jésus, qui a été rejeté par les hommes au point d'être cloué sur une croix, comme le pire des bandits, ne l'a pas été par Dieu son Père, qui l'avait choisi d'avance pour devenir cette pierre d'angle. Il faut savoir qu'en architecture, et je pense qu'à ce niveau-là, il y a des gens beaucoup plus spécialistes que moi dans cette salle. La pierre angulaire de la fondation est toujours la première pierre à être mise en place. Puisque l'angle des murs, le niveau des rangées de pierres en découle, la pierre d'angle doit être parfaite. Or, on le sait, Jésus est parfait. Il est celui qui s'est conformé totalement à la volonté de son Père, qui a obéi jusqu'à mourir sur cette croix. Il est le seul à n'avoir pas péché, à ne pas avoir fait de faute. Il a été tellement parfait, lui, Dieu parmi nous, qu'il a pris tous nos péchés et toutes nos fautes sur lui. Et il l'a fait pour que nous puissions entrer dans ce nouveau peuple que Dieu se forme, dans ce temple que Dieu veut se créer. Sans Jésus, sans l'œuvre de Dieu, il n'y aurait pas de pierre d'angle, et donc il n'y aurait pas de peuple nouveau, ni de temple. Mais cette pierre d'angle, qui est Jésus, n'est pas une pierre comme les autres. C'est ce que Pierre nous dit. Cette pierre d'angle, c'est une pierre vivante, la pierre vivante. En lisant cela, et un peu ironiquement, j'ai envie de me tourner vers Pierre et de lui demander s'il a vraiment suivi ses cours de SVT, de biologie ou de sciences naturelles. Je ne sais pas ce qu'ils avaient comme cours à l'époque, mais je lui aurais posé la question sûrement. Parce qu'une pierre vivante, en voilà une belle contradiction. On m'a toujours dit, dans mes cours de biologie en particulier, que les minéraux, les pierres, n'étaient pas vivants. D'ailleurs, si on prend une des pierres qui font partie des murs ici, on verra bien que ça n'a rien de vivant. C'est lourd, ça ne risque pas de bouger, a priori, enfin j'espère en tout cas, et ça ne grandit pas, ça n'a pas de vie. Il n'y a rien de moins vivant qu'une pierre. Autant les plantes à côté, on sait que ça grandit, que ça évolue, mais des pierres, c'est vraiment pas vivant. Pourtant, c'est ce que Pierre déclare dans notre texte. Jésus est la pierre vivante. Il est vivant car il est ressuscité. Et c'est là le plus grand miracle fait par Dieu. Jésus a vaincu la mort à laquelle tout être vivant est promis. Et ce qui est encore plus fou, c'est que par sa mort et sa résurrection, Jésus entraîne avec lui tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui, tous ceux qui vont croire en lui. En croyant, eux aussi vont devenir, nous aussi, nous devenons, par Jésus, des pierres vivantes pour former le temple spirituel de Dieu. Et c'est l'accomplissement que Pierre proclame, et c'est notre deuxième point. Le temple de la nouvelle alliance, l'Église, est un temple spirituel. Ce temple n'est pas un bâtiment, même si nous utilisons le mot « église » ou le mot « temple » pour parler du bâtiment. Mais ce temple n'est pas un bâtiment. C'est une communauté faite d'hommes et de femmes, de toute génération depuis quasiment 2000 ans, de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui se sont attachés au Christ. Cette communauté n'est plus constituée simplement de ceux d'Israël qui sont restés fidèles à Dieu, mais elle s'ouvre à tous les croyants de toutes les nations. Pierre affirme ici et de manière radicale que ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'ils soient juifs, païens, grecs, romains, d'Augobert, de la Loupe, d'Orgère ou d'ailleurs, tous constituent une nouvelle nation, un nouveau peuple qui vit au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. Par lui, et seulement par lui, ils deviennent les pierres vivantes du temple spirituel de Dieu. Ce temple, comme il poursuit l'idée de l'Ancien Testament, ce temple est la nouvelle maison de Dieu, le lieu où le Seigneur demeure sur la terre par son Saint-Esprit. Oui, Jésus, après sa mort, a envoyé son Esprit reposer et être en tous ceux qui croient en lui, être dans toutes ces pierres vivantes, être en nous, chers amis. Oui, l'Église est une notion, est une communauté qui vit la vie offerte par le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous formons tous ce temple. Nous sommes tous individuellement une partie de ce temple spirituel que nous formons tous ensemble pour la gloire de Dieu. Et les pierres vivantes, elles ne sont pas appelées à rester dans l'isolement, dans le désordre, à être entassées en tas ou dispersées dans un champ. Non, dans le temple de Dieu, dans ce temple spirituel, chacun doit trouver sa place dans une maison spirituelle, dans une communauté et vivre l'unité avec les autres pierres vivantes, avec ses frères et sœurs. Pierre nous rappelle ici l'importance de la communion fraternelle, du partage tous ensemble. Et je crois qu'il est bon de jour après jour s'en rappeler, car malgré l'imperfection de l'Église, malgré l'imperfection de mes frères et sœurs, rassurez-vous, je ne parle pas d'ici, et malgré mon imperfection, là je parle vraiment de moi, la communion que l'on trouve dans l'Église, la communion fraternelle, les relations que l'on trouve dans l'Église sont précieuses. Il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Et je crois que, à travers ce texte, on se rend compte que c'est vrai. Car le plan de Dieu, quand on vient à Jésus et que nous entrions en relation les uns avec les autres, non seulement avec ceux de notre propre génération, mais aussi en nous unissant à tous les croyants de toutes les générations. Et quelle joie de savoir que la semaine prochaine, il faudra pousser les murs de ce temple, parce qu'on va accueillir toutes les églises d'Île-de-France et vivre cette communion fraternelle tous ensemble. Et tous les croyants de toutes ces générations, sont intégrés, eux aussi, au grand projet de construction de Dieu. L'Église n'est donc pas un bâtiment comme les autres. Elle est là où chacun, où chaque chrétien se trouve. Là où ils se réunissent même à deux ou trois, que ce soit le dimanche pour un temps de culte, ou que ce soit dans nos temps de culte personnels dans la semaine, ou quand nous nous retrouvons avec des frères et sœurs dans la semaine. Elle est là et vivante, car elle repose sur le Christ ressuscité. Elle s'approche, elle se réunit autour du Christ ressuscité. Par lui, elle devient un édifice de pierres vivantes, qui sont liées les unes aux autres par l'Esprit de Dieu. Un édifice dont la construction de l'architecte, Dieu le Père, n'est pas encore terminée. Et quand je réfléchis à une construction d'église qui n'est pas encore terminée, ça me fait penser à quelque chose qui existe dans notre monde, en Espagne, à Barcelone, la Sagrada Familia. Je ne sais pas si vous voyez cette église pensée par Gaudi au départ, et qui depuis des années semble toujours être en travaux avec des échafaudages, et dont on a l'impression qu'elle ne se termine vraiment jamais et que la construction ne se terminera jamais. Pourtant, l'Église de Jésus-Christ, ce temple spirituel que Dieu forme, se terminera, aura sa construction qui se terminera à la fin des temps, quand Jésus-Christ reviendra. C'est cette promesse de cette Jérusalem céleste, ce temple céleste qui va descendre à la fin des temps, ce temple qui sera formé pour la gloire de Dieu. Mais en attendant le retour de Christ, et c'est mon dernier point, l'Église reste une mission commune que nous partageons tous. Sa mission, c'est ce que Pierre appelle les chrétiens à être. Car avant de faire des choses, l'Église doit être. Avant de faire, l'Église doit être. Elle doit être une sainte communauté de prêtres, une nation qui appartient à son Dieu. Son rôle, finalement, c'est d'être en relation constante avec son Dieu. Comment faire ? C'est ce que Pierre nous invite les chrétiens d'Asie Mineure et nous invite aussi à faire dès le premier verset de notre passage, dès le verset 4. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante. Être proche de Jésus, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre à chaque instant, individuellement et en Église, en communauté. Le but principal de l'Église, ce n'est pas de remplir ses bancs le dimanche, même si ça fait toujours plaisir qu'il y ait de plus en plus de monde et de plus en plus de pierres vivantes assises sur ces bancs. Ce n'est pas d'avoir le meilleur pasteur, le meilleur prédicateur, même si c'est souvent agréable d'avoir des bons enseignements. Ce n'est pas d'avoir les meilleurs musiciens, même si effectivement c'est aussi agréable d'être bien accompagné pour nos temps de chant. Non, le but de l'Église, sa mission, la mission qu'il nous est donnée à chacun d'entre nous, c'est de glorifier le Seigneur, de vivre et de manifester l'amour de Dieu jour après jour. Ou pour reprendre les termes de notre passage, c'est d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance. Et dans ce cadre, le culte, nos rassemblements, nos temps de communion fraternelle, nos temps de louange, le culte garde une place centrale. Finalement, il ne consiste pas seulement à écouter et à répondre à la parole de Dieu, mais il consiste aussi à élever le nom de Dieu, à l'adorer, car il nous a fait connaître sa bonté en nous faisant passer de l'ombre à son admirable lumière. Pierre nous rappelle à ce moment-là que de nombreuses pierres doivent encore rejoindre cet édifice. De nombreuses pierres sont encore dans l'ombre, sans vie, ou du moins à la recherche de la vie. Et nous voyons tout autour de nous tant de gens qui cherchent de partout cette vie qui leur manque. Et dans ce cadre, le rôle des pierres vivantes, le rôle de l'Église, notre rôle en tant que pierre vivante déjà présente, assemblée autour du Christ, c'est de vivre pleinement notre dépendance à Dieu, en nous laissant être transformés et guidés par lui, guidés par son Saint-Esprit. Tout cela pour que chaque jour, l'Église que nous formons lui ressemble un peu plus, mais aussi pour que chaque jour, en lui ressemblant un peu plus, nous puissions le refléter et annoncer ses œuvres magnifiques au monde qui nous entoure. Car la pierre vivante, Jésus, qui peut être posée à travers du chemin de l'humanité, dans sa course vers l'avenir, cette pierre vivante qui est Jésus, elle ne peut pas être simplement enjambée. Personne ne peut passer au-dessus. Nos contemporains, quand ils croisent cette pierre vivante, sont de toute façon toujours questionnés, de toute façon toujours interrogés par Jésus, par cette annonce de l'Évangile. Peut-être que certains, et sûrement certains, ne se tourneront pas vers la pierre vivante. Mais quel miracle quand d'autres se tournent vers cette pierre et découvrent et commencent à faire partie du temple. Alors oui, Dieu nous appelle à partager la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ autour de nous. Cette bonne nouvelle du salut qui nous est offert, cette bonne nouvelle dont l'Église fait partie. En annonçant cette bonne nouvelle, nous pouvons avoir la confiance et l'assurance que des pierres sans vie, seules sur le chemin, pourront découvrir cette vie en Jésus-Christ, pourront être transformées, polies par notre architecte céleste, pourront rejoindre l'édifice des pierres vivantes, rejoindre ce temple spirituel, tout cela pour la gloire seule de Dieu qui nous offre le salut. Oui, et c'est ma prière pour conclure, que nos vies, que notre Église puisse s'approcher jour après jour de la pierre vivante, qu'elle soit, que cette Église, que notre Église, que nous soyons cette louange pour Dieu et que nous puissions refléter jour après jour ce Dieu qui nous offre le salut au monde qui nous entoure. Amen. Je vous invite à un temps de silence.